Chapitre 3. Brian Darby était mort dans sa cuisine. 3 balles en pleine poitrine. La première idée de Didi fut que l'agent Léonie devait prendre ses séances d'entraînement au sérieux parce que ce tir groupé aurait pu figurer dans un manuel. Comme on l'apprenait aux nouvelles recrues à l'école, ne jamais viser la tête et ne jamais tirer pour blesser. Le torse est la zone qui offre le meilleur pourcentage de réussite. Or, si on ouvre le feu, il y a intérêt à ce que ce soit pour défendre sa vie ou celle d'un tiers. Donc, on tire pour tuer. Léonie n'avait pas raté son coup. Mais qu'est-ce qui avait bien pu se passer pour qu'une policière en vienne à abattre son propre mari? Et où était la gamine? Pour l'heure, l'agent Léonie était enfermé dans le jardin d'hiver à l'avant de la maison, où les ambulanciers soignaient une vilaine entaille au front et un œil au beurre noir encore plus vilain. Son représentant syndical était déjà à ses côtés. Un avocat arrivait. Dehors, une douzaine de ses collègues, raides comme la justice, serraient les rangs sur le trottoir en regardant avec des yeux de zombies leurs homologues de la police de Boston qui traitaient la scène et les journalistes surexcités qui couvraient l'événement. Ce qui laissait la plupart des gradés de la police municipale et de la police d'État à se chamailler dans le poste de commandement mobile, une fourgonnette blanche garée dans l'école primaire voisine. Le responsable de l'unité criminelle envoyée par le procureur du comté de Suffolk arbitrait sans aucun doute la rencontre, rappelant au commissaire divisionnaire de la police d'État qu'il n'était pas envisageable que celle-ci se charge d'une enquête mettant en cause un de ses agents, et à celui de la police municipale qu'il était parfaitement légitime que l'État veuille qu'un des siens assure une liaison. Entre 2 séances de marquage de territoire, ces honorables sommités avaient trouvé le temps de déclencher une alerte enlèvement pour Sophie Léonie, 6 ans, brune, les yeux bleus, environ 1m15, 23 kilos, un trou à la place des 2 dents de devant. Sans doute vêtue d'un pyjama rose à manches longues, avec un motif de chevaux jaunes. Aperçue pour la dernière fois la veille au soir à 22h30, heure à laquelle l'agent Léonie affirmait avoir jeté un œil à sa fille avant de partir assurer sa patrouille de 23h. Didi avait beaucoup de questions à poser à Tessa Léonie. Malheureusement, l'accès lui était interdit. L'agent Léonie était en état de choc, avait bramé le représentant syndical. L'agent Léonie avait besoin de toute urgence de soins médicaux. L'agent Léonie avait droit à l'assistance d'un avocat. Elle avait déjà fourni une déclaration initiale au premier agent arrivé sur les lieux. Toute autre question allait devoir attendre le moment que son avocat jugerait opportun. L'agent Léonie avait beaucoup de besoins, se disait Didi. Est-ce que l'un d'eux n'aurait pas dû être de collaborer avec la police de Boston pour retrouver son enfant? Pour l'instant, Didi avait renoncé. Sur une scène où régnait une telle animation, bien d'autres questions réclamaient son attention immédiate. Elle avait une nuée de policiers de quartier dans tous les coins. Des enquêteurs de la criminelle qui relevaient les indices, divers agents en tenue qui menaient l'enquête de voisinage, sans compter que, l'agent Léonie ayant abattu son mari avec son 6 hours de service, une enquête interne avait automatiquement été déclenchée, ce qui rajoutait au caractère hétéroclite du personnel policier présent sur la petite propriété. Bobby avait raison. Pour employer un terme du jargon officiel, cette affaire était un beau merdier. Et c'était elle qui avait gagné le gros lot. Elle était arrivée depuis une demi-heure. Elle s'était garée à 6 rues de là, sur la trépidante Washington Street, plutôt que dans une petite rue tranquille. Alston Brighton était un des quartiers les plus densément peuplés de Boston. Outre des étudiants du Boston College, de la Boston University et de la Harvard Business School, il accueillait essentiellement des universitaires, des familles avec enfants et des membres du personnel administratif. La vie y était chère, ce qui était paradoxal puisque les étudiants et les universitaires sont rarement très argentés. Résultat, rue après rue, les mêmes immeubles défraîchis, chacun divisé en plus d'appartements que le précédent. Les familles s'entassaient et les petites épiceries ouvertes 24 heures sur 24 et autres laveries automatiques poussaient comme des champignons pour répondre à la demande continue. C'était ça, la jungle urbaine, pour Didi. Pas de balustrade en fer forgé ni de briques décoratives comme à Back Bay ou Beacon Hill. Ici, on payait une fortune pour avoir le plaisir de louer un appartement étriqué, strictement fonctionnel, dans un immeuble étriqué, strictement fonctionnel. Pour se garer, c'était premier arrivé, premier servi. si bien que la multitude passait la moitié de son temps à tourner en cherchant une place. Il fallait se battre pour aller au travail, se battre pour rentrer chez soi, et on finissait la journée en avalant un plat réchauffé au micro-ondes dans une cuisinette où l'on ne pouvait se tenir que debout, le tout avant de s'endormir sur un micro-futon. Quartier bien situé, cela dit, pour qui travaillait dans la police d'État. Accès direct au Mass-Pike, la grande autoroute à péage qui coupait l'État en deux. Vers l'est, le Pike croisait la I-93 et le tronçon ouest vous emmenait vers la 128. Bref, en l'espace de quelques minutes, Léonie pouvait rejoindre les trois principaux terrains de chasse d'un agent en patrouille. Malin. La maison aussi plaisait à Didi. Un pavillon individuel sans chichi en plein cœur d'Alston Brighton. Flanqué d'un côté par un alignement propre d'immeubles de trois étages, et de l'autre par les bâtiments tentaculaires d'une école primaire en briques. Dieu merci, on était dimanche et l'établissement était fermé, ce qui avait permis aux forces de l'ordre arrivées en nombre de s'approprier le parking et leur avait évité le psychodrame de parents paniqués qui auraient envahi les lieux. Une journée paisible dans le quartier. Du moins, avant ça. Le petit pavillon ancien de l'agent Léonie se trouvait à flanc de colline et une partie, éclairée par des lucarnes blanches, avait été construite au-dessus d'un double garage en briques rouges. Un escalier en ciment montait depuis l'allée, de plein pied, avec la rue, et conduisait à la porte d'entrée et à l'un des plus grands jardins que Didi ait jamais vu dans le centre-ville de Boston. Chouette maison pour une famille. À l'intérieur, deux chambres, et juste ce qu'il fallait de place pour élever un enfant, à l'extérieur une pelouse parfaite pour un chien et une balançoire. Même à cet instant, en traversant le terrain en plein cœur de l'hiver, Didi pouvait imaginer les barbecues, les jeux avec des petits camarades, les soirées de détente sur la terrasse. Tant de choses pouvaient bien se passer dans une maison pareille. Alors, qu'est-ce qui avait mal tourné? Elle se dit que la réponse se trouvait peut-être dans le jardin. Vaste et complètement ouvert à tout vent au milieu de cette zone surpeuplée. Il suffisait de passer par le parking de l'école pour y accéder, ou de sortir par l'arrière d'un des quatre immeubles. On pouvait arriver chez les Léonie par la petite rue de derrière, comme Didi, ou en gravissant l'escalier en ciment depuis la rue de devant, comme la plupart des policiers d'État l'avaient manifestement fait. Que ce soit par l'arrière, l'avant, la droite ou la gauche, il était facile de pénétrer dans la propriété et plus facile encore d'en ressortir. Tous les agents en tenue jusqu'au dernier avaient dû s'en apercevoir parce qu'au lieu de contempler une étendue de neige d'une blancheur virginale, Didi avait sous les yeux la plus grande collection de traces de bottes jamais rassemblées sur un hectare. Elle se voûta un peu plus dans son blouson d'hiver et exhala avec frustration un nuage glacé. Bande d'abrutis! Bobby Dodge sortit sur la terrasse, sans doute toujours en quête du bon angle d'observation. À voir sa grimace devant ce gâchis de neige, il pensait la même chose que Didi. Quand il l'aperçut, il ajusta son chapeau à bord noir pour se protéger de la froidure de ce début mars et descendit les escaliers vers le jardin. « Tes agents ont piétiné ma scène !» lui lança Didi de loin. « Je m'en souviendrai !» Il haussa les épaules et s'approcha en mettant ses mains dans son manteau de laine noire. Ancien tireur d'élite, Bobby se déplaçait encore avec l'économie de mouvement héritée des longues heures passées dans une immobilité parfaite. Comme beaucoup de tireurs, il était plutôt petit, et sa carrure robuste et nerveuse s'accordait avec ses traits anguleux. Personne n'aurait dit de lui qu'il était beau, mais beaucoup de femmes le trouvaient fascinant. Didi avait autrefois été l'une d'elles. Ils avaient d'abord été amants avant de s'apercevoir qu'ils s'entendaient mieux comme amis. Et puis, il y avait 2 ans de cela, Bobby avait rencontré et épousé Annabelle Granger. Le mariage avait été un choc pour Didi. La naissance de leur fille lui avait porté un deuxième coup. Mais Didi avait Alex maintenant. La vie lui souriait. Non ? Bobby s'arrêta devant elle. « Les agents en tenue sont là pour protéger des vies, » lui rappela-t-il. « Les enquêteurs pour protéger des indices. » « Tes agents m'ont saboté ma scène. Je ne pardonne rien. Je n'oublie rien. » Bobby sourit enfin. « Toi aussi, tu m'as manqué, Didi. Comment va Annabelle ? Bien, merci. Et le bébé ? Karina fait déjà du quatre pattes. Je n'en reviens pas.
Didi non plus. Merde. Il se faisait vieux.
Et Alex ?
Bien, bien.
D'une main gantée, elle balaya ses mondanités.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé, tu crois ?
Bobby haussa de nouveau les épaules et prit son temps pour répondre. Alors que certains enquêteurs ressentent le besoin d'agir sur leur scène de crime, Bobby aimait étudier les siennes. Et alors que beaucoup avaient tendance à jacasser, Bobby parlait rarement quand il n'avait rien d'utile à dire. Didi éprouvait pour lui un immense respect, mais elle se gardait bien de lui dire.
« À première vue, on dirait une scène de ménage », finit-il par répondre. « Le mari l'agresse avec une bouteille de bière. L'agent Léonie se défend avec son arme de service. »
« Des appels pour violence conjugale dans le passé ?»
Bobby fit signe que non. Didi hocha la tête. L'absence d'appels ne voulait rien dire. Les policiers ont horreur de demander de l'aide, surtout à des collègues. Si Brian Darby battait sa femme, elle avait très certainement supporté la situation en silence.
« Tu la connais ?» demanda Didi.
« Non. J'ai arrêté de patrouiller pas longtemps après son arrivée. Elle n'est dans la police que depuis 4 ans.
Réputation ?
Bon élément. Jeune. En poste à la caserne de Framingham. Elle faisait les nuits et rentrait dardard retrouver sa gamine, donc pas le genre qui socialise.
Elle ne fait que des nuits ?
Bobby haussa le sourcil, amusé. Il y a de la concurrence entre agents pour le planning. Les nouveaux passent toute une année à faire les nuits avant de pouvoir prétendre à d'autres horaires. Et même là, les créneaux sont attribués en fonction de l'ancienneté. 4 ans de service ? À vue de nez, elle en avait encore pour 1 an avant de voir la lumière du jour.
Moi qui croyais que c'était galère d'être enquêtrice.
Les policiers municipaux sont tous des petites natures.
Je t'en prie, au moins on n'est pas assez cons pour piétiner la neige d'une scène de crime.
Il grimaça. Ils se remirent à contempler le jardin foulé aux pieds.
Combien de temps qu'ils étaient mariés ?
3 ans.
Donc elle était déjà dans la police et elle avait déjà la gamine quand elle l'a rencontrée.
Bobby ne répondit pas, ce n'était pas une question.
En théorie, il savait dans quoi il s'engageait, continua Didi à voix haute en essayant de se faire une première idée de la dynamique familiale. Une femme qui serait absente toute la nuit, une petite fille qui aurait besoin qu'on s'occupe d'elle matin et soir.
Quand il était à la maison.
Comment ça ?
Il travaillait dans la marine marchande.
Bobby sortit un calepin et chercha une note qu'il y avait griffonnée.
Il s'embarquait pour 60 jours d'affilée. 60 jours en mer, 60 jours à la maison. Un des gars connaissait leur organisation parce que l'agent Léonie en avait parlé à la caserne.
Didi haussa un sourcil. Donc la femme a un emploi du temps délirant, le mari a un emploi du temps délirant. Intéressant.
Costaud, le type ?
Vu son estomac délicat, Didi ne s'était pas attardé au-dessus du corps.
1m80, 105, 110 kilos. Du muscle, pas du gras.
Culturisme, je dirais. Capable de mettre du poids dans un coup de poing.
À côté de ça, l'agent Léonie fait 1m65, 60 kilos. Net avantage au mari.
Didi hocha la tête. Les agents étaient formés au combat rapproché, bien sûr. Mais une femme menue contre un homme baraqué, ça restait quand même une grosse cote. Surtout si c'était le mari. Beaucoup de policières apprennent sur le terrain des techniques qu'elles ne mettent jamais en pratique à la maison. Le cocard de l'agent Léonie ne serait pas le premier que Didi verrait sur une collègue.
Les faits se sont produits alors que l'agent Léonie rentrait tout juste du travail, continua Bobby. Elle était encore en tenue.
Didi s'étonna, prit le temps d'analyser l'information.
Elle portait son gilet ?
Sous son chemisier, c'est le règlement.
Et son ceinturon ?
Elle a pris le six-hour directement dans l'étui.
Merde. Mauvais ça.
Pas une question, alors Bobby ne répondit pas non plus. La tenue, sans parler de la présence d'un ceinturon, changeait tout. Pour commencer, cela signifiait que l'agent Léonie avait son gilet pare-balles sur elle au moment de l'agression. Même un homme de 110 kilos aurait eu du mal à porter des coups efficaces contre ce type d'armure. Deuxièmement, Un ceinturon de policier comportait bien d'autres accessoires plus appropriés qu'un Six Hour pour se défendre. Une matraque télescopique, par exemple, ou encore un taser, une bombe lacrymogène ou même les menottes métalliques. Apprendre à évaluer rapidement le niveau de la menace et y répondre avec la force appropriée était une dimension essentielle de la formation des agents. On vous hurle dessus, vous ne dégainez pas. On vous frappe, vous ne dégainez pas nécessairement. Mais l'agent Léonie l'avait fait. Didi commençait à comprendre pourquoi le délégué syndical tenait tant à ce que Tessa Léonie soit assistée par un avocat. Pourquoi il insistait tellement pour qu'en aucun cas elle ne parle à la police. Didi soupira et se massa le front.
Je ne piche pas.
Un syndrome de la femme battue, d'accord. Il la frappe une fois de trop, elle finit par craquer et faire en sorte que ça s'arrête. Ça expliquerait le cadavre dans la cuisine et les soins que lui donnent les ambulanciers dans le jardin d'hiver. Mais la gamine? Où est la petite fille?
Peut-être que la dispute de ce matin a débuté hier soir. Le beau-père a commencé à cogner. La fille s'est enfuie.
Ils regardèrent la neige où toute trace de petits pieds avait été totalement effacée.
« On a contacté les hôpitaux ?» demanda Didi. « L'enquête de voisinage est lancée ?»«
C'est une alerte enlèvement, et non, nous ne sommes pas des abrutis. » Elle lança vers la neige un regard éloquent. Bobby ne répondit pas.
« Et le père biologique ?» s'avisa Didi. « Si Brian Darby est le beau-père, où se trouve le père biologique de Sophie et qu'est-ce qu'il aurait à nous dire sur cette affaire ?»«
Pas de père biologique. » Scientifiquement impossible, il me semble. Pas de nom sur l'acte de naissance, pas de type dont elle aurait parlé à la caserne et pas d'homme qui serait passé un week-end sur deux. Explicita Bobby avec un haussement d'épaule. Pas de père biologique. Parce que Tessa Léonie ne voulait pas de lui dans sa vie ou bien parce que lui ne voulait pas en faire partie. Et tiens, imagine que ces derniers temps cet équilibre se soit brusquement modifié. Nouveau haussement d'épaule de Bobby. Les lèvres pincées, Didi commençait à entrevoir tout un éventail de possibilités. Un père biologique déterminé à revendiquer des droits sur l'enfant, ou bien une famille débordée qui essayait de concilier deux carrières exigeantes et un enfant en bas âge. Dans le premier scénario, il était possible que le père biologique ait kidnappé sa propre fille. Dans le deuxième, l'enfant était morte sous les coups du beau-père, ou de la mère biologique.
« Tu crois qu'elle est morte ?» demanda Bobby.
« Strictement aucune idée. » Didi n'avait pas envie de penser à la petite fille. Une femme qui désingue son mari, d'accord. Une disparition d'enfant. Cette affaire allait être pénible. « Impossible d'enterrer un cadavre, » réfléchit-elle à voix haute. « La terre est trop gelée pour creuser, alors si la fille est réellement morte... » Le plus probable est que ses restes ont été dissimulés quelque part dans la maison. Garage, grenier, comble, vieux congélo ? Bobby fit signe que non. Didi le crut sur parole. Elle n'était pas allée plus loin que la cuisine et le jardin d'hiver, mais vu le nombre d'agents qui ratissaient les 100 mètres carrés de la maison, ils auraient sans doute pu démonter la baraque planche par planche.
Je ne pense pas que ça ait le moindre rapport avec le père biologique, indiqua Bobby. S'il était revenu faire des siennes. Ça aurait été les premiers mots de Tessa Léonie. Allez donc voir mon ex, ce salaud, il menace de me prendre ma fille. Elle n'a rien dit de tel.
Parce que le délégué syndical l'a fait taire. Le délégué syndical ne veut pas qu'elle fasse des déclarations qui l'incrimineraient. En revanche, ce serait bienvenu d'incriminer des tiers.
Rien à redire à ce raisonnement, pensa Didi.
D'accord. Oublions un instant le père biologique. Apparemment, la famille, telle qu'elle était, avait déjà bien assez de problèmes comme ça. À voir le visage de l'agent Léonie, Brian Darby battait sa femme. Peut-être qu'il frappait aussi sa belle-fille. Elle en est morte. L'agent Léonie l'a trouvée sans vie en rentrant et ils ont tous les deux paniqué. Le beau-père avait commis un crime abominable, mais l'agent Léonie ne l'en avait pas empêché et ça faisait d'elle une complice. Ils emmènent le corps faire une balade en voiture et ils s'en débarrassent. Ensuite, ils rentrent, se disputent, et le stress aidant, Tessa pète un câble.
L'agent Léonie aurait aidé à se débarrasser du corps de sa fille avant de tuer son mari en rentrant à la maison,
Didi le regarda droit dans les yeux.
« Ne jamais présumer de rien, Bobby. Tu es bien placé pour le savoir. »
Il ne répondit pas, mais soutint son regard.
« Je veux la voiture de patrouille de Léonie, » dit Didi. « Je crois que les gradés sont en train d'arranger ça. La voiture du mari aussi. Une GMC Denali de 2007. Ta brigade l'a déjà. »
« Beau modèle !» s'étonna Didi. « On gagne tant que ça dans la marine marchande ?»
Il était ingénieur. Les ingénieurs gagnent toujours bien leur vie.
« Je ne pense pas que l'agent Léonie ait fait du mal à son enfant, » ajouta Bobby.
« Ah bon ?»
J'ai parlé avec certains de ses collègues. Ils n'avaient que du bien à dire d'elle. Mère aimante, dévouée à sa fille et je t'en passe.
« Sans rire. Ils sont aussi au courant que le mari la prenait pour un punching ball ?»
Bobby ne répondit pas tout de suite, ce qui en disait assez long. Il en revint à la scène.
« Ça pourrait être un enlèvement, » s'entêta-t-il.
« Un jardin sans clôture, au milieu d'une rue peuplée de quelques centaines d'inconnus. C'est clair. S'il n'y avait que la disparition de la petite, j'essaierais bien de voir ce que ça donne au rayon des pervers, » reconnut Didi. « Mais quel pourcentage de chance qu'un inconnu se soit introduit dans la maison le soir ou le matin même où le couple avait une dispute mortelle ?»«
Ne jamais présumer de rien, » répéta Bobby sans toutefois paraître plus convaincu qu'elle.
Didi reprit sa contemplation du jardin labouré, qui avait peut-être recélé des empreintes en rapport avec leur précédente conversation, mais qui n'en contenait plus. Elle soupira. Quelle tristesse de voir ainsi massacrer de beaux indices.
On ne savait pas, murmurait Bobby à côté d'elle. L'appel signalait un agent en détresse. C'est à ça que les agents ont répondu. Pas une demande d'intervention pour homicide.
Qui a passé cet appel?
J'imagine que c'est elle.
Tessa Léonie.
L'agent Léonie.
Sans doute un copain de caserne. Le copain a rameuté la cavalerie et la demande d'intervention a été reprise par le centre opérationnel. À ce moment-là, la plupart des agents se sont rendus sur site avec le lieutenant-colonel Hamilton en queue de peloton. Mais quand il est arrivé, il a compris qu'il ne s'agissait plus tant de gérer une crise que de faire un peu de ménage.
Hamilton a eu le bon réflexe et informé le centre de commandement de Boston puisque c'était de votre ressort.
Tout en faisant venir ses propres enquêteurs.
Il joue sa tête, chérie. Que veux-tu que je te dise?
Je veux les transcriptions.
Je ne sais pas pourquoi, mais en tant qu'officier de liaison de la police d'État, j'ai comme l'impression que ce ne sera que la première d'une série de choses que j'irai te chercher.
Officier de liaison, c'est ça. Parlons-en. Tu es l'officier de liaison, je suis la chargée d'enquête. D'après moi, ça veut dire que je décide et que tu exécutes.
Parce qu'il t'arrive de travailler autrement?
Maintenant que tu le dis, jamais. Donc, mission numéro 1, tu me trouves la fille.
J'aimerais bien.
Parfait. Mission numéro 2, tu me donnes accès à l'agent Léonie.
J'aimerais bien, répéta Bobby.
Voyons, tu es l'officier de liaison de la police d'État. Elle acceptera sûrement de te parler.
Le délégué syndical lui conseille de se taire. Son avocat, quand il arrivera, lui tiendra sûrement le même discours.
« Bienvenue dans le monde de l'omerta policière, Didi. »« Mais moi aussi, je suis policière. »
Bobby regarda ostensiblement son gros blouson et son écusson de la police municipale.
« L'agent Léonie ne le verra pas de cet œil-là. »